Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'Arcagie de France Culture, le Salon Noir. À la recherche de quelques racines, d'un peu de mystique, voire de sacré, de nouvelles pratiques issues de vieilles croyances envahissent notre quotidien. Ainsi, le chamanisme exotique et lointain a émergé en Europe en moins de 20 ans. L'archéologie n'a pas échappé à cette chamania, et fort de la lecture de Mircea Eliade, bien des chamans de tout poil se sont lancés dans la transe. Pour mieux s'immerger dans le monde des esprits, le musée du Quai Branly présente actuellement l'une des figures majeures des cultures ancestrales d'Équateur, ce passeur de traditions, président rites et cérémonies, assurant l'ordre spirituel et social de tous, le chaman. Directeur de recherche au CNRS, il a de l'aura, spécialiste de l'Amazonie et de son passé. Mon invité sera aujourd'hui l'intercesseur entre notre humanité et les esprits anciens, du moins ceux qu'il retrouve dans ses fouilles. Stéphane Rostin, bonjour.
Bonsoir Vincent.
L'Amazonie, Eldorado des chamans, tel est le titre de ce Salon Noir. Si ce n'est que pour moi, le chamanisme est une spécificité des sociétés arctiques et circumpolaires.
C'est vrai, mais c'est faux aussi. C'est vrai, à l'origine, le chaman sont des termes venus de la Sibérie, sauf qu'il a eu tellement de succès qu'il a été employé un peu partout dans le monde, et surtout en Amazonie, parce qu'il correspondait bien au statut de ces hommes particuliers, qui sont ni des hommes communs, ni des surhommes, mais qui sont un peu entre les deux, et qui font le passage entre le monde des esprits, le monde de l'au-delà, des non-humains avec les humains. Et ce terme de chaman s'adaptait parfaitement bien à leur statut, même si c'est un terme d'origine asiatique.
Ne serait-ce pas tout simplement des religions animistes avec des traditions médicinales du type médecine man d'Amérique du Nord, par exemple?
Bien sûr, il y a de ça, mais ça peut aller encore plus loin.
Puisque... Des féticheurs?
Oui, on peut le dire comme ça. J'aurais tendance à pas employer ce type de terme, mais pourquoi pas. Je pense que leur fonction va plus loin, en tout cas dans les sociétés amazoniennes actuelles. Ils sont passeurs, mais ils sont aussi, ils enseignent, ils ont beaucoup de fonctions, des fonctions particulières au sein du groupe. Ils sont aussi ceux qui donnent une identité à un groupe. Et en même temps, ceux qui permettent le contact avec d'autres groupes et d'autres non-humains. Donc leur statut est bien particulier. Mais on parle bien des sociétés actuelles. Je pense qu'à l'époque précolombienne, avant l'arrivée des Européens, faut quand même savoir que l'arrivée des Européens a provoqué un changement drastique dans ces populations. Je pense que le chaman avait encore un rôle plus important et peut-être plus précisé.
En tout cas, ce chamanisme équatorien envahit désormais l'Europe. Êtes-vous au courant de cette curieuse boisson toute chamanique que certains boivent dans des regroupements, sorte de rêve à la recherche du divin et maintenant en Europe, hein. Vous connaissez cette boisson?
L'ayahuasca.
Oui, exactement.
C'est une boisson qui peut être assez dangereuse, mais la mode a commencé, la mode New Age a commencé dans les Andes, où on voit beaucoup de groupes d'Indiens, des villages qui organisent des sessions de connaissance de l'ayahuasca, donc qui est une plante qui fait vomir, qui fait rêver, donc parfaitement adaptée aux rêves, qui donc initie les étrangers à l'ingestion de cette drogue et qui est parée de toutes les vertus. Il y a une époque, c'était les champignons mexicains qui permettaient d'atteindre un état second et qui ont eu beaucoup de succès. Maintenant, c'est l'ayahuasca et la prochaine fois, ça sera peut-être autre chose. Ce sont des effets de mode.
C'est totalement hallucinogène?
Totalement, non, mais ça l'est. Oui, ça l'est. Le premier effet, c'est de faire vomir. Donc, c'est pas le fait.
Et ensuite?
Et en effet, après, ça peut faire partir un peu l'utilisateur dans des transes secondaires.
Alors justement, a-t-on besoin de boissons pour toucher le divin?
Je crois pas du tout. On parle souvent du chaman et de ses prises de drogue, alors parce que c'est souvent spectaculaire. Par exemple, le yopo, qui est une poudre extraite d'une écorce d'arbre qu'utilisent beaucoup les Yanomami au Venezuela et qui est prise d'une façon très impressionnante. On met au bout d'une énorme paille, une énorme pipette d'1,50 m de long. On souffle dans le nez du récipiendaire et là, il reçoit au plus profond de ses sinus la poudre et part dans des transes extraordinaire. Évidemment, c'est impressionnant. Mais il n'y a pas toujours besoin de ces prises de drogue ou maintenant parfois d'alcool, tout simplement, pour parler avec les dieux. Et là, je pense en particulier à un type de chaman dont on ne parle jamais, qui sont les femmes. Les femmes sont aussi en contact avec le monde des esprits, mais comme ça se passe souvent dans le milieu féminin et que souvent les ethnologues ont été des hommes, ils ont souvent eu peu accès à ce monde. Et il y a aussi d'autres moyens de rentrer en contact avec les esprits.
Vous me parliez d'ethnologues, vous me parliez de Yanomami, c'est Pierre Clastres qui les a étudiés.
Entre autres, il y a l'ISO aussi, il y a eu plusieurs chercheurs, le dernier en date c'était l'ISO qui a fait beaucoup de travail chez eux. Ils ont été traités pendant longtemps de sauvages.
De cannibales même, non ?
Cannibales, je ne sais pas si on les a vraiment traités de cannibales, mais ils sont entourés, il y a eu des populations cannibales autour d'eux. De toute façon, le cannibalisme, c'est encore un autre thème assez fascinant de l'Amérique, puisque ça, c'est les premières frayeurs de l'Européen qu'elle a mis le pied dans la forêt amazonienne, ça a été le cannibalisme. Il faut dire que la frange atlantique de l'Amérique du Sud était peuplée de peuples toupis qui avaient la dent dure dans le sens propre du terme et qui mangeaient facilement les visiteurs.
Son prochain.
Et l'Allemand Hans Staden en a fait l'expérience en 1550. Il s'est retrouvé prisonnier pendant 9 mois et tous les jours, les toupis lui disaient « on va te manger demain ». Et en guise de menu, on lui montrait tous les jours ce qu'allait lui arriver avec d'autres prisonniers à qui on fracassait le crâne. Les femmes se précipitaient pour manger la cervelle chaude. Et après, il était découpé et mangé. Et lui a vu ça pendant 9 mois avant de pouvoir s'échapper et de raconter. C'est le premier témoignage réel de cannibalisme en Amérique. Et surtout, il a illustré son livre de beaucoup d'images, une cinquantaine d'images, qui étaient très impressionnantes. C'est comme une bande dessinée sur le cannibalisme. Et en même temps, il essaye de comprendre ces hommes. Il y a une ethnologie de l'Allemand sur ces peuples où il condamne évidemment le cannibalisme, mais il dit en même temps que c'est une façon de garder en soi la victime, le menu. Quoi.
9 mois, ça fait quand même 180 personnes de manger.
Non, il n'en a pas vu tous les jours, mais il faut imaginer l'angoisse de ce prisonnier qui voyait partir autour de lui les prisonniers, se disait « le prochain, c'est moi ». Et c'est vrai que la façon dont il le raconte est sans émotion. Évidemment, il s'en remet à Dieu beaucoup. C'est un livre que je recommande. Je recommande vraiment la lecture de « Nu, sauvage et anthropophage » de Hans Staden. Et là, on ne parle pas de chamanisme, très peu, justement.
Quoi qu'il en soit, Stéphane Rostin, que reste-t-il de ces sociétés détruites par l'arrivée de barbares, les Européens ?
Alors, si je devais suivre le discours officiel, je ne dirais pas grand-chose. Et si je devais suivre le discours réel des archéologues, il reste énormément de choses. Les Amérindiens ont touché leur paysage, comme un peu partout les populations dans le monde. Mais en Amazonie, on est vite étouffé, englué dans cette immensité verte et glauque. Et on imagine que les autres hommes n'ont pas pu faire grand-chose là-dedans. En réalité, les Amazoniens ont construit en partie leur forêt. Les arbres ne sont pas toujours des associations naturelles. Ils ont favorisé des associations d'arbres. Ils ont empêché d'autres de grandir. Donc la végétation est en partie anthropique. De même, ils ont transformé le sous-sol, alors volontairement ou pas, le sous-sol en y ajoutant beaucoup de produits humains qui ont créé ce qu'on appelle des terres noires, extrêmement fertiles, suite à de très longues occupations et très denses. Et enfin, ils ont remodeler complètement la superficie de beaucoup d'endroits pour y faire des buttes pour cultiver, pour y faire des tertres pour y vivre ou enterrer leurs morts, pour faire des canaux, pour faire des chemins, pour faire des réservoirs. À vrai dire, l'Amazonie est une immense terre transformée par l'homme.
Il reste bien sûr de l'archéologie, il reste aussi des populations.
Bien sûr, mais alors les populations ne sont que les fantômes de ce qu'elles ont pu être. J'aime à dire que personne n'aurait idée de comparer les populations mayas actuelles avec leurs ancêtres qui ont construit ces temples si majestueux. Personne n'aurait idée de comparer les Quichua des Andes, les paysans Quichua actuels avec les guerriers incas de l'époque précolombienne. En revanche, ça ne pose de problème à personne de comparer les populations amazoniennes actuelles avec les populations précolombiennes. C'est les mêmes. Ils ont toujours été comme ça, toujours vécu par petits groupes perdus dans des villages itinérants dans la forêt. On n'admet pas du tout qu'il y a eu 90% de morts aussi dans la forêt et donc que les structures sociales, politiques, économiques précolombiennes ont disparu tout autant que dans les Andes ou en Mésoamérique.
Vous avez bien entendu vu l'exposition qui vient d'ouvrir au musée du Quai Branly, avec des pièces majeures, entre 200 et 300, venant bien sûr du musée national.
Du musée national d'Équateur, ce sont des pièces magnifiques qui viennent de plusieurs endroits d'Équateur, mais essentiellement elles viennent presque toutes de la côte, où il y a toute une série de cultures précolombiennes qui ont créé des œuvres magnifiques, très stupéfiantes et surtout très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit de Mésoamérique ou des montagnes andines. C'est vraiment une iconographie nouvelle qui est très rarement présentée en France, puisque la dernière exposition sur l'Équateur remonte à plus de 20 ans. Donc c'est vraiment une chance exceptionnelle de voir cette exposition.
Ces œuvres entre hommes et animaux illustrent-elles des pratiques chamaniques ?
Je vais vous dire, je suis pas vraiment chamaniaque, moi. Et je trouve qu'il faut pas mettre le chaman à toutes les sauces. Ce sont des animaux, il y a des animaux réalistes. Il y a évidemment des processus de transformation, de mimétisme, de masque, mais tout n'est pas chamanique. Je me souviens, il y a quelques années, il y a deux décennies, quand on ne savait pas en Amazonie, on disait que c'était rituel. Maintenant, on trouve que le mot chamanique est peut-être plus à la mode, mais je ne pense pas qu'il ait plus de contenu. Et on ne peut pas tout mettre à cette sauce. Cette exposition, elle est vraiment intéressante à voir. Ça me fait penser à cette revue qui parlait du choc des images et du poids des mots. Là, on a vraiment un choc des images. Les mots qui vont derrière sont peut-être pas à la hauteur des images, parce qu'on est face à des pièces qui ne viennent pas de fouilles, et donc c'est très difficile de les faire parler. Alors évidemment, il y a beaucoup de romantisme autour, et on va parler de chamans et autre chose, mais de là à révéler une réalité de leur fonction ou de leur représentation, c'est plus délicat.
Stéphane Rostin, si le chaman est universel, il n'y a plus de chaman.
Voilà, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas le voir partout. Il faut lui réserver un champ particulier et le définir. On le définit à peu près bien en Amazonie, en Sibérie. Maintenant, il faudra apprendre à le définir aussi sur la côte d'Équateur et la côte précolombienne.
En tout cas, ce sont des œuvres très baroques. On a même parlé d'un baroque amazonien.
Oui, tout à fait. Ces pièces représentent des animaux. Alors, il faut essayer de comprendre l'esthétique. L'esthétique des précolombiens est particulière. C'est pas la nôtre. Je pense qu'on s'est fourvoyé pendant 50 ans à faire de l'eurocentrisme et à vouloir interpréter systématiquement les représentations précolombiennes. De dire que, de toute façon, les animaux prestigieux, c'était le jaguar, l'anaconda, l'aigle harpie. En réalité, les études récentes montrent que il y avait des insectes qui étaient aussi respectés, si ce n'est plus, que ces grands animaux fantastiques. J'ai un collègue ethnologue, Dimitri Karadimas, qui a révisé comme ça toute l'iconographie amérindienne ancienne en se basant sur des mythes actuels. Et il arrive à retranscrire ces mythes dans les représentations anciennes, que ce soit en céramique ou dans les tissus. Et c'est tout à fait fascinant et sûrement plus proche d'une réalité que celle de l'archéologue qui veut absolument voir des chimères ou des transformations magiques.
France Culture, le Salon Noir.
Vincent Charpentier.
Stéphane Rostin, on peut penser toutefois qu'en regardant ces animaux, que ces sociétés ne distinguaient pas le monde naturel du monde ou du domaine mythique ?
Ah, on peut pas le dire, il faut le dire. Ils ont vraiment une il y a pas de séparation dans le monde amérindien, il y a pas de séparation entre l'humain et le non-humain. Ce sont il y a une suite, il y a évidemment le groupe, le clan, la famille à laquelle on appartient et les autres, mais au niveau de ces autres, on ne va pas distinguer l'humain de l'animal, du végétal, ils ont tous une personnalité et sont tous considérés à un moment ou à un autre comme ayant fait partie des êtres vivants et ayant partagé le monde. Donc les frontières sont en effet très inexistantes, ou en tout cas très très souples, entre tous ces mondes, et c'est une vision qui est évidemment très 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 différente de la nôtre, où on a une tendance à mettre une frontière infranchissable entre nous et le reste de la Terre.
En tout cas, ce qui manque à ces objets et aux archéologues, ce sont tout simplement les mythes.
Oui, les mythes. Alors, il y a peut-être des façons de les retrouver, ces mythes. Je parlais de Dimitri Karadimas, qui, lui, utilise des mythes actuels pour essayer de comprendre les représentations anciennes. Je vais juste donner un petit exemple assez intéressant parmi les très nombreuses études qu'il a fait. Sur les vases Mochica, qui sont des populations de la côte du Pérou, on trouve parfois des prisonniers attachés qui vont être sacrifiés, avec une petite mouche à côté et une énorme mygale derrière eux. L'interprétation la plus classique pendant des années, ça a été de dire les prisonniers sont des mouches et elles vont être mangées par la mygale, ce qui est très logique. Sauf que quand on regarde d'un peu plus près ce qu'a fait Dimitri, on voit que ces mouches ont des mandibules. Et une mouche à mandibules, ça s'appelle une guêpe. C'est pas tout à fait la même limonade. Et du coup, si on regarde de plus près, on sait que dans les Andes, dans mon jardin, il y en avait beaucoup. Il y a des guêpes pompiles qui viennent pondre leurs larves dans les araignées. Ce sont les ennemis naturels, les prédateurs naturels des mygales. Elles viennent pondre leurs larves, leurs œufs dans les mygales. Les larves dévorent les mygales de l'intérieur, les dévorent vivantes. Et de là sort de cette copulation monstrueuse, sort une guêpe comme tel un alien. Et donc, on voit ces représentations dans les temples Mochica. Par exemple, on peut voir parfois une espèce de bête à deux têtes avec 14 pattes, donc les 6 pattes de la guêpe et les 8 pattes de l'araignée. Ce sont des représentations de pompiles et donc de parasitage, puisque le parasitage est un phénomène très important dans les sociétés précolombiennes, notamment dans les relations intertribales.
Que sait-on sur ces pratiques liées à ces objets et non pas sur les rites, car les rites sont indétectables par l'archéologie et les archéologues?
Alors, grâce aux énormes progrès faits par la science, par les sciences archéologiques et archéométriques, on arrive maintenant à détecter vraiment des micro-traces qu'on n'aurait pas imaginées il y a quelques années. Et on arrive à trouver parfois l'usage de certains récipients, que ce soit en pierre ou en céramique, et donc de voir qu'il y a eu l'utilisation de la coca dans certains, qu'on a bu du cacao dans d'autres. Et on arrive à peu près à retrouver un usage beaucoup plus précis que celui qu'on connaît.
Fonctionnel, en tout cas.
Fonctionnel. Pour ce qui est des rites, il est évident que l'imagination est au pouvoir, même celle des archéologues, je dirais même surtout celle des archéologues.
N'est-ce pas le potier, mieux la potière, qui incarne ce chamanisme au travers de sa production?
Aujourd'hui, oui. Pour moi, la véritable chamane observable, c'est la céramiste. Pourquoi? Parce que la céramiste, la maître potière, est souvent autant respectée que les maîtres chamanes. Elle a un statut tout aussi honorable dans la société, puisque si le chaman fait descendre les esprits parmi nous, la chamane potière fait descendre la beauté dans son clan en représentant les esprits, en faisant à partir de l'argile qui est la terre, qui est la mère de tous les hommes. Elle représente tous les esprits de l'au-delà et aussi des objets fonctionnels. Elle est vraiment maîtresse de la beauté sur terre.
Ça, c'est aujourd'hui, mais est-ce que c'est transposable dans le passé ?
Faire des inférences de ce genre serait peut-être hasardeux. Je m'y risquerais pas, mais on peut quand même raisonnablement penser, vu l'importance de la céramique à l'époque précolombienne et la beauté des pièces et la richesse de l'iconographie, qu'en effet, il y avait ce rôle. Sauf la grande différence, c'était peut-être qu'il y avait des spécialisations plus poussées chez les potières et que c'était pas comme aujourd'hui, chaque femme était porteuse, gardienne de la technique de la poterie. Autrefois, il y avait peut-être des gens spécialisés. Alors, c'est vraiment un art féminin à la base, hein, aujourd'hui, et ça a probablement souvent été le cas par le passé. Les femmes mettent tout leur art au service de la beauté du groupe aujourd'hui et probablement hier.
Les pratiques religieuses anciennes, plus ou moins animistes, ont-elles été totalement éliminées par le christianisme, Stéphane Rostin ?
Non, pas du tout. On voit tout à fait que dans les Amériques en général, les populations ont absorbé, les populations autochtones ont absorbé les religions qui leur étaient imposées. On va dans une église au Guatemala, on est surpris du nombre de représentations de tortures et de saints martyrs qui sont finalement dépendants des religions animistes de ces populations. Regardez aussi les diabladas de Bolivie, qui sont des intégrations finalement d'éléments religieux chrétiens dans des religions locales. Donc il n'y a pas une disparition. Quant à l'Amazonie, beaucoup de peuples gardent encore leur approche de l'au-delà, leur approche traditionnelle, malgré, il faut reconnaître, une avancée de plus en plus rapide des différents prêtres de différentes confessions.
Si le chaman et le chamanisme équatorien est à la mode et nous plaisent aujourd'hui, c'est probablement parce qu'il représente par essence le sauvage. Tout ça est très New Age.
Oui, alors ça c'est New Age dans le mauvais sens, à mon goût. Et puis le sauvage, la vision qu'on a de l'Amazonien a énormément varié au cours de l'histoire. On l'a d'abord. Il faut savoir que Christophe Colomb, qui débarque dans le delta de l'Orénoque au Venezuela, pense avoir trouvé le paradis. Très vite, Walter Raleigh, qui viendra derrière lui, pense avoir trouvé l'enfer. Chacun a eu ses interprétations sur ce monde. Après, il y a eu le sauvage. On traitait de cannibales les Indiens qu'on voulait capturer comme esclaves. Il suffisait de dire qu'ils étaient cannibales. Donc, on pouvait les capturer. S'ils ne l'étaient pas, il fallait les relâcher. D'autres vont voir, plus récemment, le mythe du bon sauvage. Il y a vraiment une balance entre le bon et le méchant sur l'Amazonie. Je ne pense pas vraiment que les religions New Age puisent dans cette histoire. C'est plutôt une histoire fabulée. Vous savez, moins on croit à Dieu, plus on croit à tout, finalement. Et donc, le New Age est peut-être une porte de sortie confortable pour ne pas avouer des croyances profondes.
En tout cas, les conquistadors ont cherché bien sûr l'or de l'Eldorado, mais en fait, il y aurait bien d'autres choses qu'ils n'auraient pas vues.
Ben, ils auraient surtout pas vu la richesse des populations des basses-terres. Même les scientifiques, on parle souvent des conquistadors comme les méchants de l'histoire, mais les scientifiques depuis un siècle ont parfois raté des évidences énormes. Par exemple, juste après la Seconde Guerre mondiale, les ethnologues nord-américains ont classé les sociétés d'Amérique du Sud par catégorie, en fonction du milieu géographique où elles vivaient. En haut des Andes, vous aviez les populations les plus développées, qu'on pouvait presque comparer à nous, qui étaient les Incas. Et quand on descendait plus bas, au niveau des Antilles et de la côte de Colombie, on avait des chefferies un peu plus rustres. Quand on allait encore plus bas dans la forêt amazonienne, alors là on tombait chez des tribus un peu sauvages. Et puis si on allait tout à la pointe du sud en Patagonie, où les hommes étaient nus, alors c'était presque des animaux. Donc il y avait la géographie créait la dynamique sociale. Et pendant très longtemps, cette vision a dominé la science, la recherche, notamment la recherche archéologique. Et on a toujours regardé d'en bas les cimes andines. Et c'était une erreur, puisque finalement, les grandes innovations, beaucoup de grandes innovations, se sont faites dans les basses-terres tropicales, qui sont des foyers d'effervescence.
Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons l'Amazonie Terre de Chaman avec Stéphane Rostin, directeur de recherche au CNRS, qui a l'occasion à éditer un numéro sur ce thème dans le journal Les Dossiers de l'Archéologie. L'Amazonie n'est-elle pas encore le parent pauvre de l'archéologie américaniste, les Aztèques, les Mayas et autres Incas mobilisant toute l'attention des archéologues, et cela depuis plus d'un siècle?
C'est vrai, c'est un peu vrai.
Pour vous qui travaillez en Amazonie, franchement.
Alors, je dirais plutôt que l'Amazonie est vue comme le parent pauvre de l'archéologie. Moi, j'aurais tendance à le voir comme l'oncle d'Amérique au point de vue découverte. Beaucoup des grandes découvertes faites depuis 20 ans en archéologie américaniste l'ont été dans des tropiques. On découvre, prenons un exemple tout simple, ce qu'on mange tous les jours et qu'on va manger dans quelques jours, les chocolats de Pâques, et ben le cacao qu'on clame l'origine mexicaine ou guatémaltèque, en réalité, 1500 ans avant le Guatemala, le cacao était domestiqué en Amazonie et consommé. Et on peut répéter à l'envi ce type d'exemple. La céramique la plus ancienne d'Amérique vient d'Amazonie et non pas de la côte du Pacifique comme on le croyait. On fait des découvertes sans arrêt stupéfiantes sur la productivité de l'Amazonie.
Pourtant, les grands projets, ils ne sont pas là. Ils sont bien plus au nord.
Pourquoi ? À cause de l'absence de pierres. En Amazonie, il y a très peu de pierres et donc pas de temples.
Pas de monumental.
Pas de monumental qui est si souvent séduisant et convainc. C'est toujours cette idée, la même idée que la géographie décide de la culture, le monumental décide de la beauté archéologique. C'est une erreur qui nous vient du 19e siècle et qui se poursuit. J'espère qu'un jour, on essaiera de voir plus l'information. Les grandes découvertes de notre monde sont souvent faites dans des milieux extrêmes considérés comme pauvres. La Sibérie, vous le citiez, le Sahara, les tropiques, qu'elles soient américaines, africaines ou asiatiques, ont fait beaucoup de découvertes énormes dans ces régions-là.
Justement, l'Amazonie fut aussi un centre d'inventions techniques et socioculturelles. Vous le disiez, la poterie, la première poterie, il y a 7000 ans, à Valdivia, par exemple.
Alors, avant, à Valdivia, c'est sur la côte équatorienne. On a vraiment cru que, il y a 3500 ans, la première poterie avait été utilisée à Valdivia. En réalité, une fois de plus, 1500 ans avant, dans le bas Amazon, on trouve l'utilisation de la poterie. Mais alors, peut-être encore plus stupéfiant, il y a 83 plantes natives amazoniennes qui ont été domestiquées par les précolombiens. L'Amazonie est un grand foyer de domestication des plantes. D'ailleurs, si vous regardez dans le dossier que nous avons fait, des dossiers d'archéologie que nous avons fait sur l'archéologie des tropiques, on a fait la recension de 14 grands foyers de domestication des plantes à travers le monde, et sur ces 14 foyers, il y en a 11 sous les tropiques. Les tropiques sont créatrices.
L'agriculture y apparaît à peu près à quelle époque ?
C'est toujours un peu compliqué entre la domestication, l'agriculture, l'agroforesterie, l'utilisation. Mais entre 6 et 8 000 ans, il y a beaucoup d'expériences agricoles qui se font à travers l'Amazonie. Et par la suite, il y a eu des innovations tout à fait intéressantes. Que je vous parlais de la terra preta, la terre noire, qui était une terre extrêmement fertile. Mais il y a aussi les champs surélevés, qui sont des buttes construites par milliers dans les marécages et qui permettent de cultiver donc des terres inondées et de concentrer les meilleurs matériaux. Alors on en trouve des milliers. Les plus étonnantes sont celles qui se trouvent maintenant sur le terrain spatial de la Guyane française. Et finalement, ce terrain qui est réservé, donc qui est un territoire où personne ne peut rentrer, protège ces structures précolombiennes qui ont été découvertes il y a 30 ans.
Justement, ces champs surélevés, vous les avez retrouvés en Guyane, ils seraient aujourd'hui très menacés ?
Alors, quand je les ai découverts il y a 30 ans en faisant des survols en ULM, je m'étais dit le fait qu'il y ait le centre spatial va les détruire. Et finalement, je m'étais complètement trompé puisque c'est le centre spatial qui les protège le mieux en n'utilisant pas ces terrains. En revanche, ailleurs où il y a une urbanisation croissante en Guyane française et beaucoup d'installations, là il y a une vraie menace sur ces structures millénaires.
Stéphane Rostin, plus récent, il y aurait aussi une sorte de Pompéi andin avec une éruption, l'éruption du volcan Sangay.
Ah oui, nous avons une vallée des rois en Amazonie. C'est toute une vallée d'une cinquantaine de kilomètres de longueur sur 20 kilomètres de large, où des milliers de structures de tertres ont été construites il y a déjà 3000 ans par des populations amazoniennes. Construisant des chemins creusés, connectant tous ces monticules entre eux. Mais ils étaient au pied du fameux volcan Sangay, le plus haut volcan d'Équateur, mais également aussi le plus actif. Et un jour, il y a une éruption, une belle panique. Ils ont disparu, ils ne sont jamais revenus.
Stéphane Rostin, une dernière question rapidement. Tout resterait à faire en Amazonie ?
Tout peut-être pas, parce qu'on est beaucoup a été fait depuis quelques années, mais on n'est pas au bout de nos surprises.
Stéphane Rostin, merci beaucoup. À lire donc le dossier de l'archéologie que vous venez de coéditer, à voir la grande exposition du musée du Quai Branly. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bernard Laniel, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir se consacre aux dieux et déesses de l'Arabie heureuse.